Grand Angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient, avec vous Thibaut Richard. La sécheresse, une des conséquences des canicules qui se succèdent, notamment en France. Les agriculteurs payent le prix fort. Avec nous, Pascal Lerousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éleveur et vous présidez la Chambre d'agriculture de la Creuse. Cette année est-elle vraiment une année particulière, une année exceptionnelle en termes de sécheresse ?
Oui, tout à fait. Cette année est une année vraiment hors norme, puisque bon, des sécheresses, on en a connu régulièrement ces dernières années. Hein. Mais des coups de canicule au mois de mai, juin, début juillet, on n'a jamais connu ça, et des températures élevées dans notre département, c'est une première.
Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mesurer l'ampleur de ces pertes cette année, mais aussi des dernières canicules ?
Alors, mesurer les pertes cette année, c'est pas possible, puisque ça sera très très compliqué, puisqu'on n'est pas arrivé à la fin de l'été, et ensuite il faudra passer l'hiver, puisqu'on a une baisse de production en fourrage entre 30 et 50% suivant les parcelles. Et ensuite, là, on est sur le paillasson, on n'a pas du tout d'eau, pas du tout d'herbe. Il y a des sources qui ont lâché, donc probablement on alimente les bêtes au pré, mais probablement qu'on aura des bêtes qui vont couler, qui vont s'avorter. On aura des manques de production et on y verra que dans les 6 mois, dans l'année qui vient, quoi. Après, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si ça persiste, ça va devenir très très compliqué. On a beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'agriculteurs qui nous disent qu'ils vont cesser l'activité.
Quel impact cette sécheresse a sur le revenu, sur vos revenus, sur les revenus des agriculteurs ? Comment les agriculteurs font pour survivre, pour vivre aujourd'hui ?
Ben c'est très simple, hein. Si vous devez acheter du fourrage, là, le fourrage qui était prévu pour l'hiver, pour passer les mois d'hiver, commence à être consommé, ça veut dire qu'on arrivera en début d'hiver sans fourrage, et avec des difficultés déjà d'approvisionnement, ça veut dire que ben, ça sera de la trésorerie, qu'il faudra essayer de trouver d'autres choses pour faire consommer aux animaux, et ça sera bon un exercice en déficit, donc... une grosse inquiétude. Déjà, il faudra trouver la nourriture et il faudra avoir également la trésorerie. C'est pour ça que beaucoup d'éleveurs aujourd'hui réfléchissent à la cessation d'activité qui serait le plus simple et le plus raisonnable dans pour certains d'entre nous, quoi, malheureusement.
Donc justement, cette cessation d'activité peut être finalement la dernière mesure, la dernière solution hein, prise par certains. Est-ce que vous considérez donc que les agriculteurs font partie des premières victimes du dérèglement climatique ?
Bien entendu, bon, on le vit en tant que citoyen, comme tout le monde, hein, comme tous les autres citoyens. Mais en plus, quand on vit dans la nature et qu'on vit avec la nature, c'est-à-dire on fait pousser de l'herbe, on fait pousser des céréales, forcément, quand il y a un changement climatique, c'est beaucoup plus dur pour nous, beaucoup plus brutal, et que ça impacte directement l'exploitation. Après, voilà... La Chambre d'agriculture de la Creuse avait embauché depuis une quinzaine d'années un climatologue qui nous avait fait des prévisions qui sont tout à fait ce qu'on vit aujourd'hui. On a essayé d'anticiper, mais aujourd'hui, la résilience des exploitations est très compliquée parce que il y a une réglementation qui est beaucoup trop forte et qui ne nous permet pas de nous adapter.
Et donc justement, depuis quand observez-vous ces difficultés sur le terrain ?
Bah, depuis déjà une dizaine d'années, hein, on a des périodes plus de sécheresse, des crues, et bon bah là maintenant c'est amplifié avec la canicule, hein, parce qu'on voyait des canicules 14 juillet, 15 août, aujourd'hui on les a affamés. Donc bien entendu que c'est encore plus profond, mais je vous dis, les agriculteurs se sont toujours adaptés et cherche à être résilient, mais pour être résilient, il faut que l'État nous laisse un peu de souplesse, et il y a des réglementations aujourd'hui qui nous interdisent de stocker de l'eau quand il y a des crues. On aurait des retenues d'eau, on pourrait stocker de l'eau et la ressortir pour faire un peu d'irrigation et de l'abreuvement des animaux au moment où on en aurait besoin. Et malheureusement, la réglementation aujourd'hui ne nous permet pas toutes ces choses-là, et ça veut dire que très rapidement, on va avoir des grosses difficultés si... Tous les ans, on a les mêmes phénomènes qui se reproduisent. Et d'après les études et les images qu'on a, bien entendu que ça va se reproduire.
Est-ce que vous sentez suffisamment soutenu par l'État?
Non, pas du tout. Hein. Je pense que l'État est à côté de la plaque et il ne prend pas la mesure de l'ampleur des dégâts, hein, parce que bon, que ce soit le monde paysan ou n'importe quelle entreprise en France aujourd'hui est malmenée. Et je pense que quand on va se réveiller, il sera un peu tard et que quand on n'aura plus de production, on parle d'autosuffisance alimentaire, toutes ces choses-là, mais on n'en prend pas le pas. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut de l'État qui puisse permettre de libérer un peu toutes ces contraintes administratives, ces contraintes, ces réglementations qui sont au-delà, au niveau de l'Europe, on a des réglementations et en France, on en rajoute une couche. Il faut peut-être rester sur le niveau européen et puis qu'on est tous dans le même secteur et puis le climat, il change, il faut s'adapter aussi.
Et donc, on le sait, hein, ces épisodes de sécheresse sont amenés à se répéter et à se multiplier même dans les années à venir. Aujourd'hui, comment les agriculteurs peuvent-ils s'armer pour lutter et survivre face à ces périodes difficiles qui vont se répéter?
Déjà, l'agriculteur en lui-même, c'est quelqu'un qui vit dans la nature, qui est observateur et qui avait des habitudes, des repères dans le temps. Aujourd'hui, ces repères, ils sont complètement faussés puisque on voit bien de la canicule au mois de mai qu'on voyait à 14 juillet 15 août. La pluviométrie, on a à peu près la même, mais tout au même aux mêmes périodes de l'année et on n'a pas d'eau quand on en aurait besoin. Donc il faut s'adapter, il faut stocker de l'eau, il faut la ressortir au moment où on en a besoin, il faut peut-être avoir moins de chargement, moins d'animaux sur nos exploitations et peut-être rediversifier davantage pour faire de l'agriculture comme nos parents, nos grands-parents faisaient. Hein. Il y avait un vieux dicton qui disait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai que bon, on voit des périodes compliquées. Là, hier, il est passé encore des orages de grêle sur la Creuse où le peu de récoltes qui restaient à moissonner ont été complètement détruits, quoi.
Et donc, si vous aviez Madame Barbu, la ministre de l'Agriculture, devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez?
Je lui dirais que l'écologie punitive doit cesser et que les premiers écolos, ce sont quand même les agriculteurs parce qu'ils vivent dans la nature, ils observent la nature et ils prennent les bonnes décisions au bon moment et que d'avoir des idées bien définies où il ne faut pas de réserve d'eau, où il faut, je veux dire que c'était peut-être bon il y a quelques années, mais que ça n'a plus lieu d'être et d'exister, et que bientôt on risque d'avoir faim, et il faudra bien trouver des solutions d'avoir faim et d'avoir soif, parce que si on ne fait pas des réserves d'eau, on l'a déjà, et des difficultés pour le citoyen, déjà pour rien que l'eau, pour l'humain, quoi.
Donc la loi d'urgence agricole doit être votée lundi. Comment vous vous positionnez par rapport à cette loi?
Ça va dans le bon sens, je pense qu'on n'a peut-être pas été assez loin et que je regrette toujours de voir les députés qui, dans leur circonscription, disent qu'ils aiment bien les agriculteurs et qu'ensuite, quand ils peuvent justement voter une loi pour les agriculteurs, eh ben, ils essayent de passer des amendements, ils essayent de retarder et ils votent pas forcément comme il faut, quoi.
Et est-ce que vous comprenez les réticences, hein, les oppositions à cette loi, notamment formulées par la gauche, par les écologistes? Je rappelle que cette loi donc vise notamment à réintroduire sur dérogation certains pesticides interdits en France, comme l'acétamipride par exemple, malgré les risques qu'il présente pour la santé. Comment vous vous positionnez par rapport à ça?
Je pense sincèrement que c'est plutôt de l'idéologie et du dogmatisme. Parce que la situation est très claire. Soit en France, on a le droit d'employer les mêmes produits que dans les autres pays européens, et dans ce cas-là, on peut parler de qualité européenne. Soit qu'on va au-delà, et dans ce cas-là, il ne faut pas faire rentrer des produits où on a employé ces produits dessus. Je veux dire, si nous, on n'a pas les mêmes armes que les autres, après, je peux comprendre, hein, vouloir ouvrir le parapluie, mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire rentrer des produits, il faut contrôler tous les produits qui rentrent. Il faut surtout pas qu'on puisse avoir des fruits, des légumes qui viennent d'autres pays, que ce soit l'Espagne, d'autres pays européens, Espagne, l'Allemagne, ou même beaucoup plus loin, et qui ont utilisé ces produits, ou même d'autres produits qui sont interdits en France depuis 50 ans. Hein. Vous prenez la trazine, c'était un désherbant, depuis 50 ans, il intervient en France, et dans d'autres pays, là, pour le coup, c'est pas les pays européens, mais c'est des pays plus lointains, qui l'emploient et qui nous envoient ensuite des produits qui ont été désherbés avec de la trazine.
Merci à vous, Pascal Le Rousseau.
Merci, bonne journée.
Je rappelle que vous êtes éleveur et président de la Chambre d'agriculture de la Creuse. Merci à vous, chers auditeurs, et une très bonne suite des programmes sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.